France Inter.
Det ser jo alligevel.
Klima og miljø betyder ingenting for grønlænderne.
Kåre, klimaet betyder meget for mig. Og dermed for regeringen. I forhold til følsomhed, Danmark har bestemt over Grønland i mere end 300 år, så de har en vis historisk ret til den følsomhed.
D'entendre du danois. Vous avez tout compris, bien sûr, à cet extrait de la série Borgen, saison 4, qui évoque l'exploration d'un gisement de pétrole au Groenland. Ilki, comme le souligne la ministre Birgit Nyborg, est gouverné depuis plus de 300 ans par le Danemark. Une réalité qui n'a donc pas empêché cette semaine Donald Trump de répéter publiquement ses désirs d'annexion du Groenland, avec un argument, la sécurité nationale. Bon, allez, l'argument économique hein, aussi. Rappelons ce qu'on trouve dans le sous-sol du Groenland. Cuivre, fer, zinc, diamant, or, titane, uranium, plomb, terres rares et hydrocarbures. Ce qui explique la visite d'Ursula von der Leyen en mars dernier, la volonté de la Chine d'investir dans des aéroports, des ports et des mines au Groenland, et puis l'obsession de Donald Trump. Lequel ressort donc son arme ultime pour effrayer le Danemark, les droits de douane. De fait, les Danois vendent aux Américains deux fois plus de marchandises qu'ils ne leur en achètent. Alors sur les Lego, on n'a pas de chiffres. En revanche, on sait que la moitié des exportations vers les États-Unis, ce sont des médicaments, insuline, antibiotiques et puis bien sûr les blockbusters du laboratoire Novo Nordisk, Wegovy et Ozempic, utilisés contre l'obésité et dont les pharmacies américaines manquent régulièrement. La seule usine de Caroline du Nord ne suffit pas à satisfaire la demande. Dans un pays où les trois quarts de la population sont en surpoids et où les stars vendent sur les réseaux les propriétés amaigrissantes des médicaments danois, comme Elon Musk, sur X, le 26 décembre dernier, déguisé en Père Noël, tout mince, et sous la photo cette légende, Ozempic Santa.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue et puis bonne année, il n'est pas trop tard pour vous présenter mes vœux. L'équipe se joint à moi, c'est-à-dire Valentin Pérez qui coproduit ce magazine, les réalisateurs Hélène Bizio et Étienne Bertin, Joseph Ascal, notre chasseur de son, et je salue Théo de Lobadère au mix et Gaspard Guy Bourget ce matin à la technique. L'invité de ce samedi 11 janvier, c'est un assureur engagé sur le climat, cyclone à Mayotte, incendie à Los Angeles, quand les catastrophes naturelles autrefois exceptionnelles deviennent de plus en plus fréquentes, comment assurer les hommes et les biens? Adrien Couret, le patron du groupe AEMA, vous connaissez ses marques, ses massifs, abeilles, Aesio, il sera dans ce studio vers 9h40. Nous parlerons aussi santé, le prix des complémentaires qui ne cesse d'augmenter. Depuis 10 ans, de plus en plus de communes créent leur propre mutuelle pour leurs concitoyens. Est-ce que c'est un modèle d'avenir? Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Madame Vioboulot, bonjour.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Tant de questions pour vous, Sandrine Foulon. Merci aux auditrices et aux auditeurs hein, qui vous écrivent, qui nous écrivent. Alors ce matin, Sandrine, à qui répondez-vous?
À Bernadette. Avec le télétravail, Bernadette veut savoir si son employeur peut supprimer des bureaux pour travailler dans des espaces rikiki. Je vous dis ça tout à l'heure.
Ah oui, est-ce que le patron a le droit de réagencer mon bureau si je suis en télétravail? On se retrouve juste avant 10h, Sandrine, mais tout de suite, l'actualité. Avec Marc Vigneault, le spécialiste des questions budgétaires du quotidien L'Opinion. Salut Marc.
Bonjour Alexandra.
Et Ludovic Subran. Hello Ludovic.
Bonjour.
Vous êtes directeur des investissements de l'assureur Allianz, encore un assureur. Et dans 10 jours, au Cherche Midi, vous publiez ce livre, L'export fait vivre. J'en parle parce qu'il y a des histoires super sympas. Alors dites-nous ce que vous nous avez raconté juste avant. L'export, une histoire d'export, comment les marques françaises sont pas mal. Hein.
C'est ça, je vous racontais comment Pascal Collat, le PDG de Materne, de Mom, a conquis l'Amérique une pomme pote à la fois. En fait, il voit dans le magazine Air France que Michel Obama veut lutter contre la malbouffe des écoliers aux États-Unis et il se dit, la seule façon de conquérir le marché américain, c'est d'avoir un rendez-vous avec Michel Obama. Il a le rendez-vous et Michel Obama fait la pub. Aujourd'hui, pomme pote, 70% des exports aux États-Unis.
Bon, premier marché. Comme quoi, il faut juste
c'est
faire... Il y a plein de choses à imaginer.
Je ne sais pas si ça marchera avec Mélania.
Avec qui? Bon, allez. C'est au Cherche Midi, l'export fait vivre. Alors ce matin, pour nous, à J-3 de la déclaration de politique générale de François Bayrou, ce qui se joue, c'est un accord de non-censure. Quel prix pour cette stabilité politique? François Bayrou joue la carte réforme des retraites, mais jusqu'où est-il vraiment prêt à reprendre, c'est-à-dire à réformer la réforme qui a repoussé l'âge légal de départ à 64 ans? Est-ce qu'il y a une alternative à ces 64 ans? Écoutez, c'est la grande négo et c'est notre grand débat.
Il y a plus de perspectives d'un dialogue fécond, je dirais, avec les partis de gauche.
Éric Lombard.
Qu'avec le Rassemblement national.
Ministre de l'économie.
Mais encore une fois, moi je suis ouvert et on verra ce que donnera le dialogue. Le Premier ministre n'a pas dit que nous allons revenir sur les 64 ans. On n'a pas dit qu'on n'y touchait pas. On a dit qu'on mettait tout sur la table et qu'à l'intérieur de l'équilibre financier actuel, on pouvait faire bouger des choses.
J'ai été opposé à cette réforme des retraites.
Jérôme Guedj, député Parti Socialiste.
On peut pas l'abroger, donc il faut qu'il y ait un chemin. Nous, on a fait la proposition d'une suspension, d'un gel, d'un décalage de l'application de la réforme, de nouvelles propositions. Et là, il faut que le gouvernement dise, on remet toutes les questions sur la table.
Mais est-ce que dans votre échange, il a fait un pas là-dessus?
Et y compris la question de l'âge légal.
J'ai une autre conception du compromis.
Frédéric Valletoux.
Pas touche aux 64 ans.
Député Horizon, président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
Clairement, pas touche aux 64 ans, parce qu'effectivement, cette réforme est passée, elle est aujourd'hui, elle fonctionne, on n'y touche plus. Point. Je pense que la responsabilité, c'est effectivement de répondre à la main tendue et de dire, discutons. Et si effectivement on ne peut pas discuter de ça, eh bien discutons du reste.
Si M. Bayrou veut durer comme Premier ministre,
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Il faut qu'il réponde aux urgences sociales. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que ça n'était pas des aménagements cosmétiques qui allaient régler le problème. Cette réforme des retraites est extrêmement violente. Il faut donc trouver les financements nécessaires pour pouvoir abroger la réforme. C'est pas compliqué parce que ça coûte pas très cher, en fait.
On n'est pas dans un monde théorique, on n'est pas dans des circonstances normales, on n'est pas en eau calme.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Ça n'est pas le moment de reprendre cette réforme qui, je le rappelle, porte sur 14% du PIB. Donc, il ne faut pas toucher au rendement de la réforme. Et le rendement de la réforme, on le sait, il tient essentiellement à l'âge légal de départ en retraite, 64 ans.
La retraite par points, ça ne va pas se faire en une année.
Stéphanie Villers, conseillère économique PwC.
N'empêche que ça permet beaucoup plus de flexibilité sur l'âge de départ à la retraite. Si l'opinion publique considère que 64 ans, c'est absolument pas acceptable, eh bien, laissons les Français plus libres dans leur choix, mais avec, bien sûr, cette contrainte. Si vous voulez partir plus tôt, votre retraite sera moindre, mais c'est votre propre choix.
Et on reparle même de la retraite à point. Marc Vigneault, faites-nous s'il vous plaît, ça c'était la bande-son de la semaine, faites-nous la photo de ces consultations tous azimuts et puis dites-nous voilà, ce qui est en coulisses, pourquoi ça, les retraites reviennent. On est vraiment dans un moment très particulier là.
Alors, il faut, comme on l'a entendu dans le sonore, obtenir un accord de non-censure avec le Parti Socialiste. Et vous vous rappelez qu'en 2023, il y avait eu des grèves monstres contre la réforme des retraites. Et le Parti Socialiste dit, moi, pour ne pas voter la censure, j'ai besoin de concessions remarquables. Et un de mes premiers buts de guerre, c'est la réforme des retraites et des inflexions sur le budget 2025. Et donc, François Bayrou, s'il veut durer, il est assez contraint et il va devoir faire des concessions sur la réforme des retraites. Toute la question est de savoir si il va accepter de suspendre cette réforme pendant la durée des négociations qui pourrait durer 6 mois ou s'il n'acceptera pas ça. Et certains au PS disent s'il n'y a pas de suspension, eh bien on votera la censure. Alors, derrière, il faut regarder surtout quelles sont les conditions posées à la négociation par François Bayrou. Et ça, je crois qu'on ne le dit pas assez. Il dit, d'un côté, on ne touche pas à l'équilibre financier de cette réforme. C'est-à-dire qu'il faut trouver un rendement équivalent. Et de plus en plus, au gouvernement et du côté de Bercy, on vous dit, il faut absolument pas de hausse de cotisations et d'impôts. Alors, qu'est-ce qui reste quand on a posé ces deux conditions? Il reste la baisse des pensions, personne n'en veut. Ou un arbitrage entre augmentation de l'âge légal et augmentation de la durée de cotisation. Et alors là, quand on va se pencher sur les détails de qu'est-ce que fait une augmentation de la durée de cotisation et combien il faut d'augmentation de la durée de cotisation pour compenser l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite, là je peux vous dire que ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc oui, à la fin, si ces deux conditions sont maintenues, je peux vous dire que on va quand même, le résultat sera quand même de se dire, on va avoir un problème pour trouver une alternative à cette réforme.
Alors, Ludovic Subran, vous qui connaissez les chiffres, les masses très bien, est-ce qu'il y a une alternative à ce 64 ans ? À travailler 2 ans de plus, la réforme de 2023.
Alors déjà, non, malheureusement, la boussole un peu économique du PS est cassée, parce que en fait, ce 64 ans, il est aussi bon pour l'économie, parce que ça permettrait déjà d'augmenter l'emploi des seniors en France, qui est quand même un gros sujet de précarité, en fait. Hein, les seniors qui passent à la retraite un peu trop vite et qui, du coup, peuvent plus vraiment vivre dignement. Et de l'autre côté, on a ce sujet de l'emploi des jeunes et de la taxation du travail des jeunes en France. Donc je trouve que c'est dommage que ce totem soit posé, mais c'est une bonne nouvelle qu'au moins on parle des sujets au lieu de se censurer sans vraiment réfléchir. Sur les grandes masses, le sujet, 17 milliards, c'est pas très grave en fait.
Qu'est-ce que c'est 17 milliards?
17 milliards, c'est si on revient sur la réforme, ou si on la gèle, c'est à peu près ce que ça coûterait sur les 2 prochaines années. Le problème, c'est que les marchés sont aujourd'hui très coûteux. Hein, on s'endette à 10 ans à 3,4%, donc c'est un demi-point de plus qu'il y a quelques semaines. Donc il y a cette charge d'intérêt avec cet effet boule de neige. Deux, il y a cette idée que, en fait, détricoter la réforme des retraites aujourd'hui, c'est pas exactement un coût équivalent à ce que c'était qu'on gagnait avant. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a indexé les retraites. Donc la générosité du système de retraite est devenue de plus en plus coûteuse parce qu'on a indexé les retraites. Donc en fait, il y a ce chiffre de 17 milliards, on se dirait, oh, c'est pas très grave, de toute façon, on est à plus de 6% de déficit. Mais moi, ce que je crois, c'est que c'est quand même une ligne rouge aussi pour les agences de notation, d'un côté, parce que c'est une garantie de sécurité budgétaire, et que, pour répondre simplement à votre question, je ne crois pas qu'il y ait d'autres masses en face qui fassent exactement ces chiffres-là.
Alors,
ça serait un point de TVA. Ça, c'est là où il en faudrait même 1,5 point. Et donc, of course, c'est pas possible. Et l'autre grande chose, c'est sur les impôts seulement, on pourrait pas gagner ça. Et on a vu sur les dépenses qu'ils ont l'air un peu à l'os. Ou du moins, ils n'arrivent pas à gérer des promesses de dépenses, de baisse de dépenses équivalentes à ce que la réforme des retraites pourrait rapporter.
Alors, sur le fait de dire on suspend, là, on a le PS qui dit, on pourrait, ce que ça coûte, on pourrait le puiser dans le fonds de réserve, ouais, n'est-ce pas, Marc Vigneault, ouais. Et puis, il y a l'économiste Michael Zé qui dit sur le court terme, arrêter la réforme des retraites, ça a un coût, mais ça, on peut faire une très légère hausse des cotisations sociales des employeurs ou des salariés.
Tout à fait. Alors, il faut distinguer le fonds de réserve des retraites et la hausse de cotisations, c'est une solution de court terme pour la suspension de l'augmentation de l'âge légal, là, pendant les 6 mois de négociation.
Oui, là,
reconnaissent désormais, et c'est quand même très nouveau, qu'il y a un gros déficit du système de retraite, et en plus, qui est un problème général de finances publiques. En fait, si on se concentre que sur le déficit des retraites, on manque un peu le problème. En fait, cette réforme des retraites, Ludovic l'a très bien dit, son principal intérêt, c'est qu'elle fait augmenter les taux d'emploi. On est en retard sur tous les meilleurs pays d'Europe en termes de taux d'emploi des seniors. Et pourquoi on est en retard ? Les syndicats disent qu'il faut commencer par augmenter le taux d'emploi et après on fera une réforme de retraite. Mais c'est exactement l'inverse. Quand on regarde corrélation, c'est dans tous les pays où l'âge de la retraite a été décalé que le taux d'emploi s'est mis à se décaler. Les économistes ont mis en évidence ce qu'on appelle un effet horizon. C'est quand vous placez un âge de départ, typiquement les employeurs peuvent vous licencier trop tôt, mais ils vous licencient 2 ans avant le départ à la retraite en France, parce qu'il y a un système qui permet de toucher des allocations chômage jusqu'à 3 ans, etc. Donc en fait, ils vous licencient trop tôt, c'est vrai, c'est un problème. Mais à chaque fois que vous allongez l'âge de départ, ils reculent l'âge du licenciement, et donc on voit bien que ça fait augmenter l'emploi des seniors. Et si on augmente l'emploi des seniors, on règle une énorme partie du problème de finances publiques. Donc quand on vous dit on peut compenser ça par une hausse des cotisations, d'ailleurs ça fait peser l'ajustement sur les actifs. Est-ce que alors que les retraités sont à 75% propriétaires de leur logement, ils ont le capital, ils ont le rendement, on va augmenter les cotisations des actifs, on aura un moins bon rendement en termes d'emploi des seniors, donc de finances publiques, on aura toujours notre problème de déficit, ça n'a rien à voir comme solution, ce n'est pas une solution.
Alors attendez, en même temps, les actifs, du coup, vous leur demandez de travailler 2 ans de plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi choisir entre la hausse des cotisations et travailler 2 ans de plus, ça peut être un choix.
Oui, mais même si, bien sûr, ils pourraient choisir la hausse des cotisations aujourd'hui, mais ça ne résoudrait pas notre problème de croissance. croissance, c'est ça un peu. C'est pour ça que les macroniens s'attachent un peu à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une épargne de précaution record, et une partie de cette épargne de précaution record, elle est aussi due au fait qu'on n'arrête pas de jouer au bon taux sur la protection sociale. Les Français, ils ne comprennent plus rien. Donc, il y a l'effet négatif richesse un peu sur les immobiliers, l'immobilier, tout ça. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, si vous grignotez encore plus le net, des gens va vraiment avoir un sujet de croissance et de conso. Et juste pour cette histoire de... Moi, j'ai écrit un papier pour le Club Landois, qui est ce think tank qui s'intéresse au sujet de transition démographique sur la réforme des retraites, pour renforcer ce que disait Marc. C'est-à-dire que c'est très performatif, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Et après, il y a d'autres
méthodes. Qu'est-ce que ça... Performatif, ça le rend réel.
Et ça responsabilise les entreprises. Parce qu'en fait, c'est les entreprises qui doivent s'assurer que les seniors... Encore une fois, on est seniors à 45 ans, donc ça fait un peu mal, hein, mais que les seniors puissent travailler un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des questions d'ergonomie, il y a des questions d'ajustement, etc. Et il y a plein de pays, notamment les Scandinaves, qui ont des histoires de bonus-malus sur les salaires. On avait fait ça en France à l'époque. Il y a plein d'autres méthodes, mais qui sont très coûteuses.
Mais elles ne sont pas très contraintes, les entreprises, à aider les salariés.
Bah, si vous devez garder les gens... Vous savez, en Angleterre, par exemple, si vous virez quelqu'un pour des raisons d'âge, c'est une cause de discrimination et vous avez des amendes énormes. Mais après, Alexandra, ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est vrai que quand on dit bah, ça veut dire que les gens ils doivent bosser jusqu'à 64 ans. Moi, j'ai une maman qui a bossé jusqu'à 66 ans comme aide-soignante. C'est un métier tellement pénible, et c'est parce qu'elle l'a voulu, mais c'est la tyrannie du mérite. Les gens qui ont des métiers pénibles, ils ne veulent peut-être pas faire ça. La question, c'est la pénibilité. Et moi, je pense que dans les réformes passées, la question de la pénibilité, elle a été plus ou moins résolue. Et donc là, maintenant, c'est vraiment une question de est-ce qu'on veut que les gens soient 30 ans à la retraite, payés par des actifs qui, du coup, n'ont plus de pouvoir d'achat, peuvent plus devenir propriétaires. C'est une question de pacte social qui
se joue. Marc, là, je suis pas tout à fait d'accord, Ludovic. La pénibilité, je pense que c'est une question qui n'a pas été réglée. Justement, le problème en France, c'est qu'on se concentre sur des totems, on est incapable de régler la question de la pénibilité. Nous, on a fait une enquête à l'opinion qui montre qu'il y avait un fonds qui avait été créé pour justement financer des améliorations des postes sur la pénibilité. L'argent n'a pas été dépensé. Les partenaires sociaux qui nous parlent toute la journée de pénibilité n'ont pas été capables de dépenser l'argent qui avait été prévu. Donc, il y a un moment, il faut au lieu de faire des totems politiques, essayer de s'emparer de ce qui est sur la table pour améliorer les conditions de travail des gens.
J'arrête sur les retraites parce que ça se met, vous l'avez dit Ludovic Subran, dans la grande équation économique du budget. Il y a une nouvelle donne Bayrou sur les retraites, il y a une nouvelle donne économique sur la planète en général.
Oui, il y a ces hausses de taux des États-Unis à l'Angleterre en passant par la France qui font que la charge d'intérêt va certainement augmenter et que moi je pense que nos parlementaires n'ont pas eu le mémo, mais j'avais vécu la même chose en 2022. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on fait un budget sans regarder que tout besoin d'endettement supplémentaire va être problématique. Et on a vu les erreurs de prévision des deux dernières années. Comme vous savez, moi j'ai participé à cette commission scientifique pour les finances publiques. Parmi les erreurs de prévision, il y a bien sûr la TVA, l'IS, l'impôt sur les sociétés, les collectivités locales, mais il y a aussi des histoires toutes bêtes. On a quand même un gros sujet sur comment aujourd'hui les recettes sont liés au point de croissance. Aujourd'hui, en France, on a cette élasticité budgétaire qui faisait beaucoup rire quand Bruno Le Maire fait son audition au Sénat. On a un sujet, c'est qu'un point de PIB rapporte moins de recettes qu'avant. Et donc, dans ce monde-là, c'est vrai qu'il faut être un peu plus parcimonieux sur l'appel à l'endettement des marchés. Et c'est pas du tout ce qui s'annonce pour 2025. Les besoins d'endettement supplémentaire sont énormes. Et donc ça va coûter encore plus en arbitrage budgétaire dans quelques années.
Marc, vous qui suivez ça de très très près, qu'est-ce qu'on nous dit à Bercy ? Là, on nous parle plus de 5% de déficit à atteindre.
On parle de 5,4 de déficit. Il faut être sous la barre des 5,5%. Psychologiquement, ils se disent on peut pas dépasser 5,5% pour ne pas affoler les marchés. François Bayrou a annoncé de réduire l'écart, réduire l'effort budgétaire annoncé par Michel Barnier de 60 milliards à 50 milliards. Donc ça fait déjà à peu près 0,2 points de PIB. Donc on passe de 5% qui était la cible de Michel Barnier à 5,2%.
Mais comment, la question pour les auditeurs, c'est comment ils vont faire? Ils ont aussi dit à Bercy 2/3 de baisse de dépenses, 1/3 de hausse
d'impôts. Alors, sur les impôts, ça sera à peu près le même volume que ce qu'avait prévu Michel Barnier. On va reprendre la surtaxe d'imposition sur les grandes sociétés. On va reprendre une forme de taxation des plus riches qui pourrait être un impôt sur le patrimoine parce que vous savez qu'il y a des problèmes de rétroactivité fiscale. Donc, on ne peut pas reprendre le dispositif de Michel Barnier exactement comme il était avant. Donc ça fait 2 milliards. milliards. Donc côté impôts, c'est à peu près la même chose. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire côté dépenses ? On voit que le PS a une liste de cours sur réduire l'effort en dépenses, alors que théoriquement, le gouvernement, lui, il doit l'accentuer. Donc c'est là qu'on ne voit pas très bien comment ça peut boucler.
Mais ce n'est pas une ligne rouge. Aujourd'hui, du moins, le PS a dit, cette histoire de dépenses, en fait, je pense que le gouvernement, s'il faisait ce qui se passe en ce moment, hein, c'est-à-dire on gèle en volume les dépenses votées sur 2024, on les garde en 2025, ça pourrait... c'est un coup de rabot un peu passif, mais ça pourrait aider,
Là, moi, je parle de choses très ciblées que le PS exige. C'est, par exemple, ne pas supprimer 4000 postes de profs dans l'éducation nationale, ne pas dérembourser des médicaments, etc. Donc, il y a quand même un moment, ça va peser sur l'ajustement budgétaire s'il y a trop de concessions qui sont faites.
Donc, vous êtes en train
d'autant que la croissance est en train de baisser et que le gouvernement devrait l'ajuster. Et donc, ça fait du déficit en plus. Donc, il y a un problème d'équation budgétaire qui est assez difficile à résoudre.
Et toujours pas résolu. Et on saura ça à la déclaration de politique générale, vous croyez ?
Le PS veut que le gouvernement lui présente un document avec tous les arbitrages juste avant la déclaration de politique générale pour que l'orateur PS puisse dire, juste après le discours de François Bayrou, j'achète ou je n'achète pas.
Marc Vigneault et Ludovic Subran, ils ont fait le débat, on n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de los industrializaron
el unemployment and lower job
creation.
On quitte la France, c'est le moment de l'écho en VO. Nous partons loin ailleurs voir comment l'écho tourne ce matin au Mexique.
The recipe for a perfect summer. Patron ranch water. Patron Silver, sparkling mineral water, and lime. If you know, you know.
Ça, c'est la pub de la tequila mexicaine Patron à destination des consommateurs américains. La star de la country, Becky J, donne une recette. Alors, c'est simple. Hein. Il faut juste ajouter à la tequila de l'eau gazeuse et du citron. Bon, mais tout ça, c'était à l'été 2023. Bonjour, Gwendolina Duval.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Vous êtes correspondante de France Inter au Mexique. Eh bien depuis, Gwendolina, les exportations de cet alcool emblématique du pays à base d'agave ont sérieusement ralenti comme un dry January qui durerait un peu trop longtemps.
Oui, enfin au Mexique, on parle même de gueule de bois de l'agave. Disons qu'après 13 ans d'augmentation continue et l'énorme boom que le secteur a connu récemment, la baisse des exportations qui a commencé en 2023, moins 4%, et qui se confirme cette dernière année, est un coup dur pour tous ceux qui ont parié sur une envolée durable de la tequila de l'autre côté de la frontière. Pour remettre dans le contexte, les États-Unis sont de très loin le premier consommateur de ce spiritueux, avec 334 millions de litres exportés en 2024. Ils se gardent à eux seuls les deux tiers de la production nationale. Pour comparer, c'est très loin devant les volumes envoyés à l'Allemagne, à l'Espagne ou à la France, compris entre 8 et 6 millions de litres. Pendant les confinements liés à la pandémie aux États-Unis comme partout dans le monde, la consommation d'alcool a augmenté et donc, entre 2019 et 2022, les exportations de tequila ont fait un bond de 70%. Sauf que depuis, vous l'avez dit, la demande diminue, les jeunes boivent moins et il y a effectivement ces tendances des mois sans alcool qui ont de plus en plus de succès.
Et Gwendolina, le Mexique n'est apparemment qu'au début de la crise de la tequila. Hein.
Oui, parce que le pays a planté des centaines de millions d'agaves pour anticiper la demande qu'il espérait voir venir. Il faut savoir que la plante grandit environ 7 ans avant la récolte, donc beaucoup ne sont pas encore mûrs et vont arriver sur un marché déjà saturé. Aujourd'hui, le Mexique a environ 500 millions de litres sur les bras, dans barriques ou en attente d'être mis en bouteille. C'est l'équivalent d'une année entière de production. Donc le kilo d'agave ne vaut plus rien, les producteurs paniquent, et à cela s'ajoutent les angoisses liées aux menaces de Donald Trump d'instaurer des nouvelles taxes de douane sur les produits mexicains.
Et on y revient. Gwendolina Duval avec nous de Mexico. ...9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, nous parlerons climat et assurance. Avec notre invité, c'est le patron du groupe AEMA, Adrien Couré. Nous allons aussi nous pencher sur l'accès à la couverture santé. Les cotisations des mutuelles ont augmenté de 8% en 2024. Cette année, c'est plus 6% depuis le 1er janvier. Il faut se souvenir qu'avant le Covid, les augmentations, elles restaient sous les 3%. Alors ça pèse lourd. Dans certains budgets, environ 2,5 millions de Français n'ont aujourd'hui aucune couverture complémentaire. C'est parti
particulièrement le cas des plus précaires et des retraités modestes, certaines communes ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Elles seraient 5000 à avoir monté des mutuelles spécifiques pour leurs concitoyens. Pour savoir comment ça marche, nous sortons du studio 521 en région parisienne. Nous voici à Créteil, en face de la mairie. C'est là que se trouve le bureau de Sonia Delumeau, la conseillère à la mutuelle communale. Et voici Nathalie Cristolienne, c'est le nom des habitants de Créteil, d'une quarantaine d'années, qui a rendez-vous.
En quoi puis-je vous aider aujourd'hui, Nathalie ?
Je sais que dans l'autre mutuelle où j'étais habituée, j'avais au niveau de l'ostéopathe, j'avais qu'un seul remboursement. Avec vous, si je me rappelle, j'en ai plusieurs.
Oui. En effet, donc vous aujourd'hui, vous êtes sur un contrat donc Titane, qui est le maximum, qui vous permet d'avoir le remboursement à hauteur de 300 € par an pour les séances de médecine douce notamment. Donc ça vous permet d'avoir des séances d'ostéopathe, mais pas que. Vous avez aussi l'acupuncture, la chiropraxie, enfin voilà.
Très bien. Pardon Nathalie, je me permets, donc vous êtes adhérente à cette mutuelle, mutuelle communale. Ça fait combien de temps que vous avez adhéré à la mutuelle ?
Novembre 2023. Et moi, la différence, je la sens quand je vais voir mon dentiste et qu'il me dit « Ah, enfin !» Là, au moins, on peut faire quelque chose. Vous allez vraiment pouvoir être remboursé au niveau des dents. J'ai dû prendre un rendez-vous avec un orthodontiste. C'est très cher. Et ma mutuelle, là, me rembourse. Pas l'intégralité, mais c'est quand même intéressant. Que sur l'autre mutuelle que j'avais, il n'y avait presque rien.
Vous payez combien, Nathalie, par mois, votre mutuelle ?
123 €.
Pour, donc, vous êtes vous, votre fille ?
Moi et ma fille, voilà, et sur le maximum.
À niveau 6 ?
Tout en sachant que celle que j'avais avant, j'étais sur 110 €, entre 100 et 110 €. Et j'étais sur un niveau, admettons sur 6 niveaux, j'étais sur le deuxième. Voilà, voilà pourquoi.
Voilà, on est installé dans une salle, un petit peu à l'écart, avec Antoine Pellissolo.
Je suis adjoint au maire de Créteil, premier adjoint et notamment chargé de l'action sociale au sein de la ville et puis médecin par ailleurs. On a plus de 2400 adhérents, ce qui est vraiment un chiffre important puisqu'on est une grosse commune, hein, plus de 93 000 habitants, mais c'est quelque chose de nouveau pour la ville et donc la communication a permis très vite de toucher le public.
Pour quelles raisons est-ce que vous avez mis en place cette mutuelle communale ?
Le principal motif, c'est de faciliter l'accès aux soins de la population, notamment les plus éloignés, comme on dit, du soin, c'est-à-dire les plus vulnérables au plan économique. Et on avait constaté sur la ville de Créteil, on avait environ 25% de la population qui n'avait pas de complémentaire santé, donc de mutuelle. Après, il y a un engagement financier pour l'accompagnement via le CCAS qui
coûte cher ou pas ?
Bah, au total, ça représente, je pense, pas loin de 200 000 euros par an hein, pour une collectivité. C'est pas rien, surtout par les temps qui courent, mais c'est vraiment un engagement volontaire parce qu'on a engagé sur la santé en général et sur l'aide aussi aux populations les plus précaires.
Merci beaucoup. Une mutuelle communale, ce sont des tarifs de 20 à 40% moins chers qu'une mutuelle classique. Tous les habitants de la ville peuvent la demander sans autre condition d'adhésion. La première est née en 2013, dans le village de Caumont-sur-Durance, dans le Vaucluse. Aujourd'hui, ce sont plus de 5000 villes, départements ou régions, de toutes couleurs politiques, qui proposeraient cette forme de complémentaire. En 2024, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes a sauté le pas, comme Montpellier, Sète, Angoulême ou encore Fleury-Mérogis. C'est dans cette ville de l'Essonne, de 13 000 habitants, que je rencontre Mohamed, 42 ans, 6 enfants, chauffeur VTC. Sa mutuelle communale lui coûte désormais deux fois moins cher que la précédente pour un taux de remboursement équivalent.
129,30 €. Franchement, j'en suis satisfait, quoi. J'étais quand même à 260 €. Bon, il y avait une bonne couverture, mais c'est vrai qu'au niveau du prix, c'était assez excessif, quoi. Ça fait un budget.
Le maire de Fleury-Mérogis, Olivier Corzani, l'a mise en place en juin, après avoir constaté que 35% des habitants n'étaient pas couverts par une complémentaire. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place ?
Ça a été une petite aventure.
Ça nous a demandé un travail préparatoire d'environ 2 ans. Il faut faire une étude santé, un diagnostic santé. Suite à ce diagnostic, il faut établir un cahier des charges en posant les exigences de la commune. En l'occurrence, ça paraît anodin, mais indiquer la présence physique sur le territoire de Fleury-Mérogis de la mutuelle, par une permanence du coup physique. Nous, on veut une proximité de l'humain à l'humain, quoi. On a un démarrage un peu en douceur, puisqu'en un an, on est à un peu moins de 20 adhérents, on est à 18 précisément. D'abord, Fleury-Mérogis, c'est une ville très jeune. 50% de la population a moins de 30 ans. Et donc, moins sujet à des maladies. Et moins sensible à la question de la santé, parce que jeune.
Donc ça veut dire que vous avez encore beaucoup d'habitants qui n'ont pas de mutuelle ?
Oui, on est encore... Ça veut dire qu'effectivement, on a un vrai travail à effectuer sur ce sujet, mais cette action, si elle n'avait pas eu lieu, c'était 2 personnes qui étaient porteuses d'un cancer et qui ne le savaient pas, et qui allaient passer peut-être plusieurs mois, plusieurs années avec ça, avec une tumeur qui pourrait se développer, et qui finalement l'avait prise en charge très en amont.
Pour proposer ces mutuelles, les communes s'associent à des acteurs privés, comme Nuoma, Mutcom, Axiom ou Just. Philippe Mix est le président de Just. Il a déjà signé avec Vélizy, Toulouse, Valenciennes, Saint-Tropez, Le Touquet.
Ah ben là, la semaine prochaine, je pars à Annecy, Annemasse et un tout petit village qui s'appelle Vougy, à côté d'Annecy, Annemasse. Donc je vais signer avec Vougy. Voilà. C'est intéressant parce que ça me fait revoir tous mes cahiers de géographie de quand j'étais gamin.
Au total, ce sont plus d'un millier de villes françaises qui sont partenaires de sa mutuelle.
Le désengagement de la sécurité sociale, l'allongement de la durée de vie, le coût de la recherche médicale, le niveau de taxes sur nos activités fait que il faut bien que les gens trouvent la solution qui permette d'être bien couvert et en préservant tant que faire se peut son portefeuille. Nos adhérents déclarent faire une économie moyenne de 400 euros sur l'année. La mutuelle Just n'a bien sûr pas d'actionnaires à rémunérer, n'a pas de bénéfices à réaliser, est très éloignée de toute préoccupation financière ou mercantile. Alors bien évidemment, les comptes doivent être équilibrés, mais moi, président de la mutuelle, je ne suis jamais qu'un adhérent élu par les autres adhérents pour les protéger et les représenter. Voilà.
Les mutuelles communales peuvent-elles continuer à se développer ? En tout cas, les augmentations de tarifs des complémentaires santé classiques peuvent les rendre plus attractives. Pour autant, le phénomène a aussi ses limites. Nicolas Da Silva est économiste de la santé, maître de conférence à la Sorbonne.
Les limites du modèle de la mutualité communale sont liées à leur modèle d'affaires. Leur modèle, c'est que ce sont des complémentaires santé pour des gens qui sont précaires, ou bien retraités, mais pas assez fortunés pour s'acheter une complémentaire. Donc ces gens sont plutôt malades, en plus mauvais état de santé que les autres. Donc qui, a priori, coûtent cher pour les complémentaires santé et qui sont pas rentables. Donc on voit bien que l'équilibre est très précaire.
L'équilibre économique de ces mutuelles.
Exactement, l'équilibre économique. Donc la difficulté qu'on a, c'est dans quelle mesure est-ce que ça peut être une solution qui serait une solution pérenne, et c'est pas évident d'avoir une perspective là-dessus. Donc il y a 2 grandes perspectives possibles. Soit il y a un statu quo au niveau des remboursements qui sont ceux de la sécurité sociale, ou même un recul des remboursements de la sécurité sociale, comme ça a été envisagé ces temps-ci avec l'augmentation du ticket modérateur. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que les gens qui sont dans les interstices, qui n'ont rien, cette population-là va se développer, il va y avoir une demande supérieure pour ce type de complémentaire particulière, ou bien on va aller, au contraire, vers un remboursement à 100% par la sécurité sociale, qui, en fait, prend acte du fait que malgré tous les dispositifs filets de sécurité, il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet, et ces gens sont dans des grandes précarités, non seulement économiques, mais aussi vis-à-vis de l'accès aux soins.
Les mutuelles communales, une autre façon d'accéder aux complémentaires santé, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Le directeur général du groupe mutualiste AEMA est notre invité. Bonjour et bienvenue Adrien Couré.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Massif, Aesio, Abeille, ça ce sont vos marques parce que le groupe AEMA, peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est. 12 millions de sociétaires, dites-moi si j'ai les bons chiffres. 15 milliards 500 millions de chiffre d'affaires, environ 20 000 collaborateurs.
Exactement.
C'est exact. Alors vous avez entendu le reportage avec nous. Des mutuelles existent, montées en partenariat avec des communes et elles proposent des tarifs 20 à 40% moins chers. On a envie de se dire que c'est une solution d'avenir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors ça nous parle déjà, parce qu'on parle de mutuelle et AMA Group, c'est un groupe mutualiste. Et puis on parle de la question de l'accessibilité, de la protection des Français. Face à ça, il y a des solutions qui sont recherchées. Les mutuelles communales en font partie. D'ailleurs, on en propose dans notre groupe. Ça n'est qu'une petite partie de la solution. Parce que le sujet, il est global. Celui de la protection, c'est celui en assurance de la mutualisation et du partage du risque. Et donc avoir des solutions locales, c'est bien. Mais faire en sorte qu'à l'échelle de l'ensemble des 12 millions d'assurés que vous mentionniez, eh bien, il y ait une péréquation, que les bons risques et les mauvais risques puissent s'équilibrer, c'est un élément qui est très important pour nous. Mmh. Donc, nous, au sein de notre groupe, on propose l'ensemble des solutions, les solutions complètes, Massif, Aesio, Abeille, des solutions plus spécialisées, et c'est une complémentarité en réalité.
D'accord. Pour vous, ce n'est pas une solution globale qui peut marcher à l'échelle...
Non, je ne pense pas que le secteur de l'assurance, dans 10 ans, ce ne sera que des mutuelles communales. C'est du complément.
Alors, pour les mutuelles complémentaires classiques, je parlais d'une augmentation des cotisations de 6% depuis 10 jours, on s'en est un peu tous aperçus. Mais ça, c'est une moyenne, parce que pour certaines catégories de sociétaires, d'assurés, ça va beaucoup plus haut. Quand on est retraité, par exemple, la hausse de cotisation, elle peut aller jusqu'à combien ?
Alors ça dépendra vraiment des profils, mais ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent bien, c'est que la hausse des tarifs des complémentaires santé, elle n'est que le reflet de la hausse des dépenses de soins des Français, parce que la population vieillit, parce que les solutions médicales ou de soins sont de plus en plus importantes et technologiques. Et en fait, depuis quelques années, les mutuelles ne se font pas d'argent sur le dos des Français. Elles ne font que suivre les hausses de remboursement. Les tarifs augmentent parce que les Français sont mieux remboursés.
D'accord. Donc pour vous, ce qui justifie la hausse des cotisations qui, dans les années 2010 jusqu'en 2022, c'était moitié moindre, c'est le vieillissement. Mais ça ne s'est pas produit en 10 ans quand même.
Il y a le vieillissement et il s'accélère. Il y a eu la situation post-Covid avec des rattrapages de soins, une situation de santé du pays qui est moins bonne. Il y a cet effet technologique qui est important. Mmh. Donc tout ça vient jouer. En réalité, on parle des hausses de cotisations des complémentaires. On parle aussi du déficit de la Sécu. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est comment on maîtrise mieux l'évolution de la dépense de soins des Français. Ça pose la question de la prévention. On est un pays qui n'est pas bon en France en matière de prévention. On préfère guérir que prévenir. Ça pose la question de l'évaluation de la dépense médicale, par exemple. C'est quelque chose sur lequel aussi on n'est pas très bon en France. Et nous, assureurs, nous demandons à avancer sur ces sujets-là. Ça pose aussi la question de la lutte anti-fraude. Et je ne pense pas forcément aux assurés sur le sujet. Je pense parfois aux professionnels de santé. On a des cas parfois un peu spectaculaires sur le sujet. Et ce sont des sujets sur lesquels assureurs et sécurité sociale, nous pourrions travailler ensemble.
Alors, ça pose aussi la question, on vous en fait souvent la remarque, des frais de gestion de la mutuelle. L'assurance maladie ne se prive pas de dire que, elle, ses frais de gestion, c'est moins de 3% et que pour les mutuelles, en général, c'est 20%.
Alors là, on compare des choux et des carottes. Si on prend vraiment ce dont parle la sécurité sociale sur les 3%, nous, les mutuelles, en vérité, on a 4-5%. Il faut bien voir aussi qu'on investit sur une qualité de service. La disponibilité de nos services au téléphone ou en agence, ce n'est pas la même que celle de la sécurité sociale. Je ne veux pas être polémique. Mais c'est une réalité. On est présent partout dans les territoires. On propose des services de prévention.
Donc pour vous, c'est un mauvais argument.
Oui, c'est un très mauvais argument.
Mais alors, attendez, dans la hausse de cotisation, et vous ne m'avez pas répondu sur les retraités. Moi, j'ai lu que ça pouvait être jusqu'à plus 25% si on était retraité, hein, pour certains.
Ça peut arriver, effectivement.
Mmh. Vous avez intégré, j'imagine, les mesures du budget de la Sécu, le PLFSS version Barnier, qui prévoyait qu'il y avait une baisse du taux de remboursement de 5% par la Sécu pour les médicaments et les consultations médicales, sauf que depuis, ces mesures, elles sont dans les limbes. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas retenu par le PLFSS version Bayrou, vous remboursez ?
Oui, alors faut être extrêmement lucide, Alexandra Ben Saïd, le nouveau gouvernement, il aura besoin de chercher des économies, alors que ce soit sur la consultation médicale, les médicaments, il y aura quelque chose. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, c'est que ça fait plusieurs années que les complémentaires santé, et en particulier les mutuelles, les entreprises à forme mutualiste, ne gagnent pas d'argent sur les complémentaires santé. Hein, moi, c'est vraiment un message très fort que je veux passer. Ces augmentations, ce n'est pas une augmentation de nos marges. On suit la dépense et le besoin en fait, des Français.
Est-ce que à J-3 de la déclaration de politique générale de François Bayrou, vous attendez quelque chose de spécifique, Adrien Courret ?
Bah, on attend de la visibilité. Mais là, je pense que notre secteur n'est pas différent des autres. On est aujourd'hui dans une difficulté à savoir comment on fait évoluer nos garanties pour nos sociétaires, comment est-ce qu'on va investir l'argent qu'ils nous confient. Donc on est un peu en attente de visibilité de la part du gouvernement. Celui-là n'y est pour rien, c'est le fruit de l'année très instable politiquement qu'on a connue en 2024.
Alors, instabilité politique, je vous emmène sur l'insécurité climatique. Au moment où nous parlons, les incendies ravagent toujours Los Angeles. L'année 2024, elle a été la troisième plus coûteuse pour les assureurs depuis 1980. Et évidemment, en France, on s'en souvient, ça a démarré en janvier dans le Pas-de-Calais avec les inondations et ça s'est terminé en décembre avec le cyclone Chido sur Mayotte. Je vous parle encore de cotisations. La première conséquence, c'est que les cotisations pour l'assurance habitation, elles vont augmenter.
Nous n'avons jamais autant remboursé, redistribué, indemnisé nos assurés. Et donc pour ça, effectivement, il faut collecter davantage.
Ayez en tête c'est 12% en moyenne, c'est ça?
Oui, mais il faut prendre la tendance longue. Ayez en tête que sur les 15 dernières années, la charge climatique en France, pour les assureurs, mais donc pour les assurés, hein, elle a doublé. Et on prévoit qu'elle double encore dans ces prochaines années. Donc pour avoir plus de protection, il faut plus de cotisations. Là encore, en assurance dommage, c'est notre terme à nous, hein, c'est l'assurance auto-habitation, les marges sont nulles. On ne se fait pas d'argent sur le...
Alors là, je me demande avec quoi vous gagnez de l'argent avec vos investissements,
eh ben,
c'est ça?
Eh bien, la réalité, c'est que le secteur de l'assurance gagne beaucoup moins d'argent. Effectivement, il peut y avoir des sujets sur investissement, mais sur le fond du sujet de l'assurance, notre difficulté, c'est de suivre ces questions de climat, ces questions de santé qu'on évoquait tout à l'heure. Les gens demandent d'être plus protégés, ça a un coût, c'est un investissement.
Bon, et donc les cotisations vont continuer d'augmenter, c'est ce que j'entends, vu que le risque climatique n'est pas prêt de disparaître.
Je pense qu'il y a deux choses. C'est bien de parler des cotisations, mais évidemment le risque climatique, il va au-delà de la question de l'assurance. Vous avez parlé de sécurité climatique, ça amène un moment à se poser la question de... d'où vient ce coût? C'est pas seulement parce qu'il y a plus d'événements, c'est aussi parce qu'on se rend compte que nos territoires sont vulnérables. Pourquoi? Eh ben, à Valence, c'était la bétonisation. À Mayotte, c'est évidemment la question des bidonvilles. À Los Angeles, on découvre qu'il n'y a plus d'eau pour éteindre les incendies. En fait, ça pose la question de l'adaptation. La moitié du coût des sinistres climatiques, elle vient du fait qu'on a mal construit, que les étalements urbains sont trop importants, qu'on a artificialisé les sols.
Mais alors, quoi? Oui,
donc ça, on arrive à un moment où c'est plus que la question de l'assureur et que nous interpellons les pouvoirs publics en leur disant vous devez aider à l'adaptation du territoire français. Et c'est des propositions d'ailleurs qu'on a faites dans un document que vos auditeurs n'ont sans doute pas lu, mais qui est le plan national d'adaptation au climat que Michel Barnier avait initié et là qui a été posé.
Alors très bien, Adrien Courret, mais qui doit, par exemple, on doit adapter sa maison, on doit mettre des bâtards d'eau là quand il y a des inondations en bas des portes pour bloquer l'eau. Ça a un coût, l'adaptation. Qui doit payer?
L'ensemble de la chaîne, en fait, les assurés, les assureurs et les pouvoirs publics. Mais typiquement, prenons un exemple, les Hauts-de-France que vous avez rappelé. On s'est rendu compte qu'en fait, le sinistre avait été très important. Pourquoi? Parce que finalement, on avait construit un endroit qui était sous le niveau de la mer, que les canaux n'avaient pas été entretenus, qu'on avait détourné le cours d'une rivière. Ça veut dire que localement, et on sait où sont les zones qui demain sont touchées par... Il faut des plans d'adaptation locaux. Et autour de ces sujets-là, investir, d'ailleurs, ce qui créera l'activité économique et des technologies. Donc, le fonds Barnier, par exemple, qui est un outil qui doit servir à ça, nous pensons qu'il doit être renforcé. Le régime catastrophe naturelle, vient d'être... elle vient d'être augmentée. C'est un régime de solidarité. Donc, quelque part, ça devient une gestion du risque globale et commune, sachant que tout cet argent qu'on met dans la prévention, ça coûtera moins cher demain en cas de sinistre. Et c'est de la sécurité climatique pour les Français.
Vous avez vu que le maire de Breil-sur-Roya a pris il y a 8 jours un arrêté symbolique. Il a interdit les catastrophes naturelles sur sa commune parce qu'il ne trouve pas d'assureur pour les bâtiments. Sa commune, elle a été très touchée par la tempête Alex en 2020. Est-ce que ça va se passer de plus en plus fréquemment chez nous? Est-ce que c'est déjà en train de se passer pour les communes, pour les ménages? Comme en Californie, les assureurs disent « Ah non, je ne vous prends pas ».
Alors, il ne faut pas faire le parallèle entre la France et la Californie. On est sur des cas extrêmes aux États-Unis. La France demeure un pays où la très grande majorité des gens trouvent de l'assurance. Il commence à y avoir des cas, effectivement, vous en avez cité quelques-uns. Ce qu'il faut mettre en place à ce moment-là, c'est en complément des dispositifs privés, des dispositifs de solidarité.
C'est-à-dire les assureurs, les mutuelles, c'est ça que vous appelez dispositifs privés, non?
Non, oui, les assureurs, mais des dispositifs, par exemple le régime catastrophe naturelle, mais il faut aussi travailler l'amont du risque. C'est la question de l'adaptation.
Ah, vraiment, vous avez un message pour les maires, là? C'est ça que j'entends ce matin.
Il se trouve, puisque vous évoquiez la vallée de la Roya, qu'il y a eu à l'époque des destructions de maisons, on s'est rendu compte que des maisons avaient été construites quasiment dans le lit de la rivière. Bon, ça pose une question qui n'est pas celle de l'assureur, mais nous, sur laquelle nous interpellons.
Il faut contrôler, c'est ça que vous dites?
Il faut contrôler, il faut diagnostiquer et il faut anticiper, peut-être, sur certains cas, et le fonds Barnier doit servir à ça, à repositionner certains logements, repositionner certaines entreprises. Sinon, c'est pas seulement une question financière. On aura des drames humains un jour, comme ceux qu'on a malheureusement connus à Valence.
Et est-ce que entre les refus d'assurance et les augmentations de cotisations chez les assureurs, on se dit attention à la colère sociale ?
Ah, bien évidemment. La France est un pays en Europe où les gens s'assurent beaucoup et sont très bien assurés. Ça pourrait changer. Nous, en tant que groupe mutualiste, on a des dispositifs internes de solidarité, on fait l'extra-contractuel et on est soucieux de ça. Mais ça suppose une régulation au global.
Adrien Couret, le directeur général du groupe mutualiste AEMA, merci d'avoir été l'invité d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Bernadette vous a écrit, elle est assistante. Une fois par semaine, Bernadette partage la même pièce qu'une collègue. Mais à cause du télétravail, son patron, leur patron, veut supprimer l'un des deux bureaux et rajouter une chaise ou un petit canapé quand elles sont ensemble. Ce responsable a-t-il le droit de faire cela, vous demande Bernadette.
Bernadette, le code du travail est assez mutique sur la gestion des espaces du bureau. Il ne définit pas de surface minimale par salarié. Mais il dit quand même que les locaux doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leurs tâches sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. Le poste de travail doit être agencé de manière à ce que vous ayez une liberté de mouvement suffisante. Pour convaincre votre responsable, vous pouvez aussi vous appuyer sur la norme AFNOR qui recommande une taille minimale de 9,78 mètres carrés par personne, c'est très précis. Il y a des indications au centimètre près pour l'occupation du siège de bureau, du matériel informatique ou des armoires de rangement. Même pour un jour par semaine, Bernadette, vous pouvez expliquer que travailler sur une chaise collée à votre collègue ou assise dans un canapé ne sont pas vraiment des conditions idéales pour réaliser vos tâches. Faire des économies sur du mobilier de bureau, c'est un peu mesquin et c'est contre-productif. Le sujet relève des élus du personnel, si vous en avez, ou à défaut de l'inspection du travail. Normalement, le bureau doit rester le lieu où on peut travailler sereinement, surtout pour toutes celles et ceux qui ont découvert que leur appartement n'était pas fait pour ça. Mmh. Un sondage Ipsos réalisé pour Cool a montré que plus de 20% des télétravailleurs interrogés avaient décidé de revenir partiellement ou complètement au bureau à cause du bruit.
Et notre autre auditrice, Géraldine, a aussi un problème de bureau, Sandrine. Elle vous a écrit de saucer les pins dans les Bouches-du-Rhône. Elle travaille dans un immeuble de grande hauteur. Son employeur a bloqué les escaliers au prétexte que si les salariés y tombaient, les pompiers mettraient du temps à les trouver. Alors Géraldine, elle ne veut pas prendre les ascenseurs, elle aimerait bien se dégourdir les jambes. Qu'est-ce qu'elle peut dire à son chef ?
Alors là, c'est très simple, Géraldine, et ce n'est pas qu'une question de sport. Le code du travail est pour le coup très clair. Il est interdit de bloquer les escaliers, a fortiori si ce sont les seules sorties de secours. Vous pouvez passer le message à votre employeur. Ce sont des espaces qui doivent être impérativement dégagés pour une évacuation rapide. Et je vous assure que les pompiers préfèrent vous trouver dans les escaliers que bloqués dans un ascenseur.
Ah oui, Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, on vous réécoute et on vous podcast.